RFI, il est midi à Paris, 11h, temps universel.
Margot Ratézic.
Dans ce journal, nous reviendrons sur ces opérations intensives contre des centres de terrorisme en Cisjordanie, selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous irons aussi en France au procès des geôliers de l'État islamique. Des proches d'otages assassinés ont témoigné à la barre. Vous entendrez le récit bouleversant de notre envoyé spécial. Nous parlerons enfin justice fiscale avec l'adoption de la taxe Zuckman en France, un impôt minimum pour les ultra-riches. Alors combien de personnes concernées, cette taxe a-t-elle des chances d'être adoptée définitivement? Notre journaliste en studio vous dira tout. Israël ordonne une opération intensive contre des centres du terrorisme en Cisjordanie. Une opération présentée par Benjamin Netanyahou comme une réponse à une série d'explosions dans des bus vides près de Tel Aviv. Explosions qui n'ont donc pas fait de blessés. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Une opération intensive est déjà en cours depuis un mois en Cisjordanie occupée.
Oui, en fait, depuis la mise en place de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, les villes et camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée sont soumis à des opérations quotidiennes. 40 000 Palestiniens ont dû fuir leur foyer. Au moins 40 personnes ont été tuées. Tout cela selon les Nations Unies. Des maisons, des immeubles dynamités ou bombardés. Des bulldozers qui détruisent également les maisons. Les infrastructures de première nécessité telles que les canalisations d'eau. L'accès à ces zones est très compliqué. La Cisjordanie est quadrillée de checkpoints de l'armée israélienne. Le maire de Jenin, ville particulièrement visé par ces opérations, accuse l'armée israélienne de mener des destructions aléatoires pour rendre le camp de réfugiés inhabitable. Ces camps accueillent des familles de Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs terres à la création de l'État d'Israël en 1948. Mais c'est aussi le fief des groupes armés palestiniens, dont celui du Hamas. En juillet dernier, déjà, la Cour internationale de justice a estimé que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé était illégale et devait cesser. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénoncent des démolitions massives et une expansion des colonies israéliennes.
Merci Oriane Verdier du service international de RFI. Et le Hamas déclare que le corps de l'otage Shiri Bibas pourrait avoir été mélangé par erreur. Israël reproche au mouvement palestinien de ne pas avoir restitué la dépouille, mais celle d'une autre femme à sa place. Benjamin Netanyahou jure de faire payer au Hamas cette violation cruelle de la trêve en cours. La famille Bibas était devenue l'un des symboles de la violente attaque du 7 octobre en Israël. Shiri, la mère avait été enlevée avec ses enfants de 4 ans et 8 mois. Tous les trois sont décédés et leur père, Yarden Bibas, a quant à lui été libéré le 1er février. En France, troisième jour de témoignage des ex-otages au procès des geôliers présumés du groupe État islamique. 5 accusés sont poursuivis pour leur implication dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie. Parmi eux, Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles. La cour a d'abord entendu l'humanitaire italien Federico Motka. Il avait été enlevé en 2013 et détenu pendant 14 mois avec son collègue britannique David Haynes, qui a lui été assassiné. Il avait 42 ans, sa veuve et ses deux filles ont livré des témoignages poignants à la barre. Le récit de Laura Martel.
Hey ma chérie, j'espère que tu vas bien, je travaille en Turquie, je suis heureux, je t'aime. C'est le tout dernier message que j'ai reçu de mon père le 12 mars 2013, dit Bethany. À mesure qu'elle lit ses propres messages restés sans réponse, la voix de la jeune femme de 27 ans suit le crescendo des émotions de la jeune fille de 15 ans qu'elle était. Légèreté, aidade, je suis occupée à potasser mes examens, appelle quand tu peux, incompréhension, et papa, si je t'ai contrarié, je suis désolée, rappelle-moi. Panique. Papa, j'ai besoin de toi, tu me fais peur, t'es là ? Mais il n'était pas là, dit-elle aujourd'hui avec rage. Il était détenu en Syrie, battu, électrocuté, humilié, affamé, torturé. Suis plus d'un an d'une insoutenable attente. Le 13 septembre 2014, j'ai été réveillée par la police et ma mère. Mon monde s'est écroulé. Je vois l'image de la tête coupée de mon père placée sur son corps sans vie dès que je ferme les yeux. Sa petite sœur, elle, avait 2 ans quand son père est parti en Syrie. Trop jeune, dit-elle, pour savoir que certains au revoir sont pour toujours. Je ne voulais pas lui annoncer la mort de son père avant d'être suffisamment forte pour elle, confie la maman. Pendant 3 mois, j'ai continué à porter un masque de force pour l'extérieur quand je m'écroulais de l'intérieur. Plus tôt, Federico Mokta, binôme de détention de David Haynes, avait confié. David avait 2 filles et chaque jour, il prenait un temps pour leur parler dans sa tête.
Une taxe pour lutter contre l'injustice fiscale a été adoptée en France. Son nom, la taxe Zucman, du nom de l'économiste dont le travail a donné naissance à cet impôt. Un impôt plancher, c'est-à-dire un impôt minimum sur le patrimoine des ultra-riches. Une taxe décriée au sein du camp Macron, qui y voit une mesure confiscatoire. Le texte doit encore être débattu par les sénateurs, mais au final, il a peu de chances d'être définitivement adopté, puisque le Sénat est dominé par la droite et le centre. En tout cas, cette mesure, Justine Fontaine, renvoie au débat sur les inégalités sociales en France et sur les impôts que payent réellement les plus riches.
Oui, car les ultra-riches sont plus riches et plus nombreux depuis la pandémie de Covid-19 notamment, et ils payent proportionnellement nettement moins d'impôts que les classes moyennes par exemple. Cela grâce à l'optimisation fiscale des moyens légaux, parfois très complexes, de payer le moins d'impôts possible. L'objectif du texte proposé par les écologistes et voté hier à l'Assemblée nationale est donc d'instaurer un impôt plancher pour que les plus riches payent au moins 2% d'impôts sur leur patrimoine, sur ce qu'ils possèdent, Margot.
Et quand on parle des plus riches, quelle partie de la population cela représente exactement ?
Alors, dans le cas de cette proposition de loi qui est inspirée directement des travaux de l'économiste Gabriel Zucman, vous le disiez, cela concerne 0,01% des plus riches, environ 1800 personnes en France. Les élus qui soutiennent le texte estiment que cela rapporterait en théorie 15 à 25 milliards d'euros, une somme au moment où la France cherche à réduire son déficit public.
Mais on le disait, Justine, cet impôt risque de ne pas être adopté définitivement.
Oui, les sénateurs sont contre. C'est même un impôt confiscatoire et inefficace, a estimé hier la ministre des Comptes public, Amélie de Montchalin. Autre membre du gouvernement, la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a aussi rejeté la mesure, un peu gênée tout de même, on l'entend, c'était chez nos confrères de France Info ce matin.
Je ne pense pas néanmoins que la solution qui est proposée par l'économiste Gabriel Zucman soit la bonne solution.
L'exécutif français défend au niveau international cette taxe, mais assure qu'elle ne serait donc pas efficace si elle n'est pas adoptée par un groupe conséquent de pays ensemble, car un impôt de ce type adopté dans un seul pays inciterait les ultra-riches à déménager pour payer moins, selon eux. Le gouvernement français veut donc, au niveau national, un impôt minimum non pas de 2%, mais de 0,5% seulement, et sans que les biens dits professionnels soient concernés, ce qui rapporterait alors 10 fois moins que le texte voté hier à l'Assemblée.
Merci Justine Fontaine du service économie de RFI. Direction Paris, maintenant on va danser et chanter au Théâtre du Lido. La comédie musicale Hello Dolly s'installe sur les Champs-Élysées pour souffler ses 60 bougies. Née en 1964 à Broadway et multi-récompensée, Holly Dolly a été adaptée au cinéma avec Barbara Streisand dans le rôle principal. Hello Dolly, c'est surtout l'histoire d'une marieuse professionnelle pleine de ressources, comme le raconte Carmen Lussmann.
Paillettes et claquettes, robes à crinoline virevoltante et chorégraphie époustouflante, amour et humour. Hello Dolly est une comédie musicale dans les règles de l'art américain. Sa force réside en particulier dans sa musique, sophistiquée et populaire à la fois. Benjamin Prat, chef d'orchestre associé du Lido.
C'est l'âge d'or de la comédie musicale dans les années 60. Donc c'est un mélange de l'opérette avec le blues, jazz. Et Jerry Herman fait cette synthèse-là en mettant du swing et de la chanson.
Celle qui mène la danse, c'est Caroline O'Connor, anglo-australienne abonnée aux comédies musicales depuis plus de 40 ans.
J'ai commencé à danser à l'âge de 4 ans. Mes parents viennent d'Irlande, donc c'était la danse irlandaise. Mais à 17 ans, je suis entrée à la Royal Ballet School de Londres et j'ai eu mon premier travail à 19 ans.
Dans Hello Dolly, cette passionnée de la scène campe le rôle d'une marieuse culottée et attachante, avec une vivacité et une voix loin des clichés de l'image de la femme des années 60. Jean-Luc Choplin, patron du Lido.
En même temps, il y a aussi un joli message, c'est que même veuve et un peu âgée, elle va chercher à se remarier et à faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc le bonheur se crée à tout moment de la vie.
Et aussi dans la salle du Lido.
RFI, bientôt midi 10 à Paris, 11h10. Temps universel, c'est la fin de ce journal. Toute l'actualité internationale est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Tout de suite, c'est Pourquoi RFI dit ça ?